brought to you by Lexus. Some things do more than their stated functions, because exceptional things inspire you to do exceptional things. To this select list, we add the all-new Lexus GX. With its exceptional capability, you'll see possibilities you never knew existed, sending you far outside your comfort zone. But as much as the GX challenges you, it also spoils you. Its intuitive technology and luxurious features mean that wherever you go, you'll never go without. Live up to it. The all-new Lexus GX.
Bonjour, ici Louis Vindel. Vous m'avez peut-être écouté dans Passage, aux côtés de Solal, mais aujourd'hui je vous dis deux mots sur Lettre Zola, une publication soutenue par Louis Média. La promesse de Lettre Zola, c'est d'amener la littérature dans votre boîte aux lettres. Chaque mois, recevez un texte original et inédit par une jeune plume française. Un petit livre d'une cinquantaine de pages, grâce auquel vous pourrez vous plonger dans un sujet de société et découvrir les nouveaux visages de la littérature contemporaine. Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Assor, François-Henri Désérable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6€ sur www.lettrezola.fr. Bonne écoute et bonne lecture.
Louis. Depuis 1999, le photographe canadien François Brunel travaille sur un projet où il photographie des personnes qui ne se connaissent ni d'Ève ni d'Adam, qui vivent dans différents pays, sur différents continents, mais qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Au fil des années, ce projet de photo sur les sosies a attiré l'attention de chercheurs qui étudient la génétique et l'épigénétique. En analysant l'ADN de ces sosies, il est ressorti que plus une paire se ressemble physiquement, plus ils partagent d'ADN en commun. Alors qu'on sait que le milieu de vie détermine si certains de nos gènes s'expriment ou non, c'était un résultat assez surprenant pour les personnes qui n'avaient pas du tout vécu dans le même environnement et qui montre le poids de nos gènes dans qui nous sommes au monde. Sur les photos, on croit voir de vrais jumeaux. Souvent, ils s'enlacent et on sent, au-delà de l'apparence physique, une grande proximité entre ces inconnus. Dans ces visages en miroir, il y a quelque chose de fascinant, mais surtout bizarrement de rassurant. Dans cet épisode de Passage, Valentine, à la recherche de ceux qui lui ressemblent, avec Valentin et Didier, au micro d'Alice Guionnet. Je suis Louise Emerlet. Bienvenue dans Passage.
Je suis née à Sofia, en Bulgarie. Ma mère est bulgare et mon père est français. J'ai peu de souvenirs de mon enfance. Un vague souvenir en maternelle d'être tombée par terre sur mon nez qui avait abondamment saigné. Mais mes souvenirs commencent à peu près à partir de 8 ans, 10 ans. Je suis une bonne élève à l'école, très bonne élève, même très studieuse. Je lis énormément. Je peux passer mes journées entières allongées à lire. Je suis une enfant calme parce qu'on sort peu, mais en même temps, je peux être très colérique. J'ai un caractère très fort et j'ai des excès de violence. Je suis violente. Quand ma mère est enceinte de mon frère quand j'ai 11 ans, je lui donne des coups de pied dans le ventre en l'insultant alors qu'elle est enceinte. Ils sont un peu dépassés, mes parents. À l'adolescence, ça s'accentue. Et je sais que j'effraie ma sœur qui a 5 ans et demi de moins et mon frère qui a 11 ans de moins. Ils ont peur quand je me mets à crier. Je suis capable de taper dans les murs. Je me sens proche de ma mère. Par contre, avec mon père, je me dis toujours à ma mère, mais pourquoi tu t'es mariée avec ? Papa, j'ai rien à voir avec lui toujours. Plus je grandis, plus je me dis que j'ai aucun point commun avec mon père, et alors que je trouve des points communs avec ma sœur et mon frère. Mon père est très stressé. Quand il rentre du travail, il attend, il a faim, donc il ronchonne, il se met devant la télé, il parle pas. Et quand il parle, c'est pour râler. Il n'y a que le week-end et en vacances. On a l'impression que son travail lui pèse. Et il est... en fait, il lui faut peu pour être stressé. À l'âge de 14 ans, j'ai envie d'être journaliste. Donc, je fais, après le bac, une maîtrise de communication où je m'ennuie assez, il n'y a pas grand-chose à faire. Pendant ce temps-là, je révise vraiment mes concours d'école de journalisme. Et j'ai 22 ans. Et pendant la fac, je me rends compte que je suis en train de m'interroger sur mes origines. Je me dis, c'est bizarre, quand je suis née, papa, il a 19 ans, il est en DUT à Lille, et moi, je nais à Sofia. Donc, je ne comprends pas bien comment ils ont pu se rencontrer, à quel moment, et comment, alors que ma mère ne semble pas être venue en France dans sa jeunesse. Je vois, depuis que je suis petite, des photos de mariage. J'ai jamais imprimé que ce sont des photos de mariage. Et sur ces photos, je suis dessus. J'ai 4 ans, apparemment, j'ai les cheveux courts. Et je respire un dahlia dans un parc à parisien. Je respire des fleurs et j'ai une petite robe bleu marine à fleurs. Et à 20 ans, je commence à me demander pourquoi ma mère n'est pas en blanc sur les photos. Et à 22 ans, une fois que j'ai mon concours d'école, ça doit faire son travail inconsciemment. Là, je prends ma mère, vraiment, je lui demande de s'asseoir. Moi, je suis debout à côté d'elle et je l'interroge. Elle est dans un fauteuil en cuir vert, là, qui date des années 70, qui n'a pas bougé. Elle est là, un peu affaissée, les épaules voûtées. Je lui demande vraiment qu'est-ce qui s'est passé, qu'elle me raconte, comment elle a rencontré mon père, comment je suis née, j'ai besoin de savoir. Donc, elle commence par me dire que quand ils se sont mariés, j'étais là. Bon, là, j'ai dit, oui, c'est sur les photos. Merci. Mais encore. Et j'insiste. Et là, c'est là qu'elle craque et qu'elle pleure. Je pense que c'est la deuxième fois que je dois l'avoir pleuré dans ma vie. Et elle dit que, en fait, Didier, c'est pas mon père. Et là, c'est un choc à la fois, mais peut-être, en fait, on a une façon de se dissocier quand on a des choses un peu traumatiques qui arrivent. C'est-à-dire que moi, c'est comme si ça ne me touchait pas sur le coup. Et je m'en vais faire une tarte aux poires en cuisine. Quand elle pleure, je la console pas, je la laisse pleurer. Parce que moi, j'ai toujours détesté le mensonge, ça doit venir de là. Et le fait, je me dis, ça fait 22 ans qu'on me ment, qu'on me cache. Et dans la famille de mon père, j'ai toujours été accueillie comme si j'étais leur vraie cousine, alors que tout le monde savait. Voilà, tout le monde savait, et pas moi. C'est comme si, au fond de moi, je le savais. Et que là, en fait, qu'on établisse la vérité, ça me donnait aussi pas de l'importance, mais qu'on me considérait. Qu'on me dit, ça y est, je ne suis pas une petite fille à qui on raconte des histoires, je suis une adulte et enfin, on me parle comme une adulte. Je comprends pourquoi je ne ressemblais pas à mon père, que j'avais aucun point commun avec lui, puisque ce n'était pas mon père génétique. Et ça soulage, parce qu'on se demande, mais ce n'est pas possible, pourquoi moi je suis différente de mon frère et de ma sœur. Et je lui demande, j'ai envie de savoir à quoi ressemble mon père. Donc je lui demande des photos et elle dit qu'elle n'en a pas. Et là, je suis en colère en fait. Je me dis, c'est pas possible. Elle a tout rayé comme ça, sans penser à moi, qu'un jour je poserai des questions. Elle dit non, j'ai tout jeté. Dans ma tête, il fallait te sauver. Je me dis que je ne connaîtrai jamais son visage. J'interroge davantage ma mère et... elle me raconte, et c'est là que ça continue, on va de surprise en surprise, c'est qu'elle me dit qu'en fait, quand elle est tombée enceinte, il n'était pas question en Bulgarie d'être enceinte à 24 ans sans être mariée. Ma mère me raconte qu'elle a croisé mon père, c'était une amourette d'été, qu'il est bulgare, qu'elle tombe enceinte, et quand elle lui en parle, il ne veut pas en entendre parler. Elle est partie, il fallait qu'elle trouve une solution. Et elle me répète plusieurs fois, il fallait que je te sauve, comme si j'étais en danger. En fait, elle était sous pression de mon grand-père. Et mon grand-père est arménien, réfugié là-bas, en Bulgarie. Et il a honte. Et voilà, donc ma mère est enceinte. Elle commence à fabriquer des capes pour cacher sa grossesse. Lui, il se dit, vite, il faut qu'elle se marie, sauver l'honneur. Donc, il a sa belle-sœur, donc la sœur de ma grand-mère, qui habite à Paris. Et il envoie des photos à ma grand-tante, du coup, qui se met à chercher dans la communauté arménienne un bon père, un bon mari. Elle monte les photos et là, il y a un certain Alain Papazian qui voit les photos de ma mère très belle. Voilà, 1m60, mais elle a des grands cheveux longs, noirs, un beau visage fin et puis une belle poitrine, taille 36. Vraiment, c'est une femme magnifique. Et bah, lui, il tombe amoureux d'elle sur photo. Voilà, c'est comme ça. Alors, il accepte le mariage. Il arrive à Sofia. Il se marie avec elle. Ma mère me dit qu'a priori, elle sera enceinte de 5 mois. Bon, j'hallucine un peu. Je lui dis 5 mois, on voit quand même qu'on est enceinte. Ah non, 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 il ne voyait rien. Bon. Voilà, bon, je ne sais pas trop si c'est les bonnes dates. Et donc, elle reste pour terminer sa grossesse en Bulgarie. Moi, je nais comme à terme, en mars 72, je suis un bon gros bébé de 4 kilos peut-être. Enfin, un bon bébé. Et lui, Alain Papazian, est à Paris. Et comme elle a menti sur la date, elle fait croire... Enfin, elle dit que je suis une grande prématurée et que je dois rester là-bas pour être prise en charge par une nounou. Je suis allaitée apparemment par une nourrice aussi, par ma mère. Et ma mère rentre, fait des allers-retours, me laisse à mes grands-parents là-bas et à ma tante. Et fait des allers-retours en Orient Express entre Sofia et Paris. A priori, je serais arrivée en France à l'âge d'un an, un an et demi. Ma mère me dit qu'elle n'est pas amoureuse de ce monsieur. Lui est amoureux d'elle, mais il commence à avoir des doutes. Et elle, elle est terrorisée à l'idée d'être dénoncée, que son mariage blanc soit dénoncé et qu'on lui retire sa fille. Donc, elle lui écrit une lettre et elle part un matin. Mais ça, elle ne sait pas me dire non plus quel âge j'ai. À ce moment-là, j'ai entre 2 et 3 ans. Et elle part un matin, elle me prend sous le bras et elle s'en va. Il ne l'a jamais dénoncée et elle lui en est reconnaissante. Elle lui a menti, elle lui a quand même fait croire qu'il était père. Et c'est quand même assez grave. Et en plus, c'était une immigrée quoi, qui avait profité de ça pour avoir des papiers et pour fuir. Mais tout ça, c'était sous la pression de mon grand-père. Elle prend un appartement avec moi, toute seule. Elle trouve un emploi chez Siemens. Et on habite Porte de Brancion, à Paris.
J'ai plus de 20 ans quand je rencontre Angèle, mon épouse. Je la rencontre au travail. Elle est belle, brune. Bien sûr, au travail, tout le monde sait qu'elle vit seule avec un enfant, parce qu'elle raconte sa vie, hein, ça c'est sûr. Hein. C'est vrai que c'est pas courant à l'époque. J'ai 23 ans quand je me marie, et Valentine en a 4. On a fait une petite chose à Aubervilliers, puis on est allé dans le Nord, où on a invité toute la famille du Nord dans une grande salle.
Je comprends pourquoi, à 19 ans, il pouvait pas me connaître, puisqu'il était à Lille. Et puis, ma mère a couché à Sofia. En fait, ils se sont rencontrés quand il avait 22 ans, en 1975, et moi, j'avais déjà 3 ans.
Donc, j'ai 30 ans quand j'adopte Valentine. Elle a 7-8 ans. On est conseillé par Pierrette, qui est assistante sociale. On passe devant un juge, il pose plein de questions, bien entendu, pour voir si on est apte. Voilà. Alors on veut l'adopter pour que ce soit plus facile pour elle et ça lui permet d'avoir notre nom. On ne comptait pas lui dire. La famille l'accepte sans problème lorsque je leur annonce. Angèle a un peu peur au début que quelqu'un fasse des gaffes quand Valentine grandit. Valentine m'appelle toujours Didier. Puis à 6 ans, lorsque Cécile, ma seconde fille, naît, Valentine commence à m'appeler papa. Je ne fais aucune différence entre les 3 enfants. J'ai 3 enfants, c'est tout.
J'ai 22 ans, je rentre en école de journalisme, ma vie continue. J'ai aucune info sur lui et ça, je regrette. Et ma mère sait que je lui en veux de ne pas avoir gardé de photos, de m'avoir menti.
Un vendredi soir, après le travail, je regarde la télé et je tombe sur une émission de l'explorateur Cousteau sur la 2. une émission consacrée au Danube. À un moment, ça parle de la Bulgarie. J'appelle Angèle. En fait, Angèle, elle aime bien quand ça parle de la Bulgarie à la télé. Donc, systématiquement, je l'appelle. Là, on voit Cousteau. C'est filmé en 1992. Il dit « Je rencontre le ministre de l'Environnement bulgare, Valentin Vassiliev ». Alors là, je me souviens très bien d'Angèle. Elle est sidérée. Elle est dans le fauteuil, là. Elle ne bouge plus. Et elle me dit cette phrase « C'est Valentin, le père de Valentine ».
Un jour, ma mère vient me voir et me tend une cassette. C'est que quelques mois après, hein, je pense, quelques mois après, qu'elle me raconte tout ça. Et elle me dit « Voilà, tu voulais voir ton père ? Tiens. » Et là, je prends la cassette, je dis « Bah, c'est quoi ?» Elle me dit « Bah, regarde. » Donc, bien sûr, je me précipite sur magnétoscope. Je mets la cassette et là, je vois une émission de Cousteau. De Cousteau sur le Danube. Et il y a un moment dans l'émission, il dit « Je rencontre le ministre de l'Environnement bulgare, Valentin Vassiliev. » Et là, je suis complètement... Je dis « C'est pas possible. C'est fou quand même. Ça tombe du ciel, ça. C'est comme ça, c'est une étoile. C'est... » Et ma mère m'avait dit, et j'avais oublié, elle m'avait dit qu'il ressemblait à Julien Clerc, mon père. C'est tout ce qu'elle avait réussi à me dire. Et la première chose qui me vient à l'esprit, c'est « Ah bah dis donc, il ressemble pas du tout à Julien Clerc, il ressemble plutôt à un parrain de la mafia, quoi. » Et je vois cet homme qui est plus grand que Cousteau, beaucoup plus grand, carré, une forte carrure, le teint très mat, vraiment une baraque, il en impose, quoi, physiquement. Pas très souriant, enfin, voilà, mais un visage massif, solide, voilà. Quelqu'un de, qui peut être paradoxalement à la fois rassurant et inquiétant, quoi. Je me dis, ah ouais, je suis la fille d'un ministre. Après mes études, très vite, je rencontre un premier amoureux. J'ai une fille, une petite fille, adorable, mais je suis assez perturbée, pas très stable, je pleure, je fais du baby blues. Voilà, je me sépare du papa, la petite a un an et demi, et j'arrive sur une deuxième relation qui là est passionnelle. Et l'homme est marié, me quitte, revient, et voilà, bref. Et au bout de la troisième fois, je sens qu'il va me quitter, on fait un voyage au Mexique. Et dans l'avion du retour, j'ai 31 ans, et là, le film Frida Kahlo est diffusé dans l'avion. Et je pleure quasiment tout le film. Je vois Frida Kahlo dans le film, et qui a cet accident en étant jeune et qui surmonte les obstacles et une force de vie et une flamboyance toute sa vie. Elle combat et elle réussit et elle surmonte tous les obstacles. Et je me suis dit, waouh, bah moi aussi j'ai envie de faire un truc de grand. Et quand l'avion atterrit à Paris, je regarde mon homme et je lui dis, je vais faire quelque chose de grand moi aussi, comme Frida Kahlo, et je vais retrouver mon père. En fait, j'en avais marre de souffrir pour les mecs, et là, je me suis recentrée sur mes besoins, sur moi. Et je me suis dit, pourquoi tu te remets toujours dans ce type de relation ? Occupe-toi de toi, au lieu de faire du sauvetage de couple. Qu'est-ce qui va te faire du bien ? De retrouver tes racines. Ça, c'est quelque chose de fort, et j'ai dit, c'est quelque chose de courageux, c'est une grosse prise de risque. Mais vas-y, fais ça, fais-le pour toi. Comme je prédisais, mon compagnon me quitte. Et je me concentre sur mes recherches. Comme je sais qu'il était ministre de l'Environnement, je contacte une journaliste d'RFI qui me dit qu'il est député parce qu'on est bien plus tard que 1992 et il n'est plus ministre. Et elle me dit qu'il est député au Parlement. Donc, ça va, pas trop compliqué les recherches. J'ai une collègue, ce qui est aussi un signe du destin, qui est bulgare, ce qui est quand même rare. elle accepte de me traduire une lettre, parce que je demande à ma mère, et ma mère refuse. Et ça aussi, j'ai été déçue. Elle m'a dit, mais tu te rends compte, si on perturbe la vie de cet homme-là ? J'ai dit, mais attends, et moi, ma vie ? Elle n'est pas perturbée, maman. Toi, tu as peur de perturber la vie d'un mec qu'on ne connaît même pas ? Et la mienne, moi, ta fille, bon, elle n'a pas voulu. Ça devait être trop lourd pour elle de remuer tout ça. Elle avait trop peur. Donc, j'ai dit, attends, moi, je vais prendre le courage. C'est moi qui vais avoir le courage que mes parents n'ont pas eu, quoi. Donc, j'ai écrit la lettre et traduite. J'envoie, il ne se passe rien. Pas de retour. Donc, j'appelle le Parlement. Et là, je parle en anglais. Et je prends un rendez-vous et je dis que je suis une journaliste française qui prend un rendez-vous parce que je fais un reportage sur Cousteau. Et j'ai besoin de rencontrer Valentin Vassiliev. J'obtiens un rendez-vous. Là, j'ai 31 ans. On est au mois d'octobre. Et ma petite, je la laisse à mes parents, mais je mens en disant que je pars en thalasso avec mon chéri. Mon homme est revenu. Et tient vraiment à m'accompagner dans ce projet. Il trouve que c'est extraordinaire, c'est génial, il me soutient. Et il dit, j'ai envie d'être là pour toi. Donc moi, je suis trop contente, hein, bien sûr. Et donc, on prend l'avion, on loue une petite chambre. Et j'ai rendez-vous au Parlement. Je prends dans les albums les photos de ma mère quand elle est jeune. Et on part. J'ai préparé aussi une lettre en anglais au cas où la rencontre se passe mal. Je pars, je suis très déterminée, très contente, j'en parle un peu à tout le monde, et toute joyeuse de faire quelque chose d'important et plutôt fière de moi. Et voilà, en même temps, je ne sais pas quel sera l'aboutissement, donc plus l'échéance de la rencontre approche et plus je me sens fébrile. Donc j'arrive au Parlement avec mon chéri, il pleut. Et voilà, on a le parapluie et lui m'attend dehors. Je dis, bah viens. Non, je vais te laisser, c'est un moment important, il faut que tu sois qu'avec ton papa. Donc il reste sous son parapluie avec l'appareil photo, un gros appareil photo autour du cou. J'ai cette image-là et je monte les escaliers qui sont très larges, très hauts, comme ça, ils me paraissent immenses. Et voilà, on m'accompagne, là je suis accueillie par une dame qui s'avère être la traductrice et elle m'accompagne dans une pièce tout à fait neutre, complètement banale. J'ai aucun souvenir de cette pièce, j'ai l'impression que c'est un cabinet médical plutôt. Et là il est là, il arrive, je lui serre la main, bonjour et tout, je m'assois. Et il est grand comme sur la vidéo que j'ai vue, je le vois immense, comme si deux têtes de plus que moi au moins. Large, très large, fort, et un visage massif, carré, et le teint très mat, pas de cheveux, et voilà, un fermé quand même, assez un peu sévère, austère, côté austère. Mais en même temps, il me fait un petit sourire, il est content, il me tapote sur l'épaule, voilà, il me fait asseoir. Il rencontre une journaliste qui fait un reportage sur Cousteau, quoi. Moi, dans ma tête, je suis là, oula, comment je vais commencer mon truc? Voilà, je sens des suées. Et je m'assois et j'ai regardé la traductrice et je lui ai dit, traduisez bien ce que je vais dire, parce que c'est pas ce à quoi vous vous attendez. Donc, c'est très important, traduisez bien.
По това време бях член на българския парламент. Беше малко преди обяд към края.
À ce moment-là, je suis député au Parlement bulgare. Un peu avant midi, je quitte la réunion du matin. L'attaché de presse me dit qu'une journaliste française vient pour m'interviewer. Je demande à quel sujet. Il me dit qu'on va parler des rencontres avec Jacques Cousteau. J'accepte l'interview de la journaliste française, j'entre dans la pièce. Mon regard se pose sur une dame debout en face de moi, âgée de 30 ans. Elle est brune. Je me dis tout de suite qu'elle ne ressemble pas du tout à une Française. Ça attire mon attention.
Et ben moi, j'y vais cash, quoi. Je dis, voilà, je suis bien une journaliste française, mais je ne fais pas un reportage sur Cousteau. Et je dis, ben voilà, je voudrais savoir si vous vous souvenez de Angela Ouagnan. Et au début, je lui montre pas les photos, je garde les photos. Et il me dit Angela Ouagnan, il répète, et je dis oui, Angela Ouagnan. Et la traductrice lui répète, mais il voit pas, comprend pas. Je sors ma petite enveloppe, là, avec mes photos de ma maman. J'ai 3-4 photos d'elle en noir et blanc. Et il regarde, et il me dit, ah, Angela Ouagnan. Je me dis, je fous de moi. fait 4 fois que je le dis, 10 fois que je le dis, et moi, je suis dans tous mes états. Je dis, ça y est, là, je vais me faire jeter. Et forcément, il est député, il y a une traductrice. Oh là là, la honte. Il y a un moment, on se dit, qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? J'ai envie de ratatiner sous le canapé, là. Et puis, voilà, je donne mes photos, je montre, et là, oui, Angela Wagnan. Et là, il se lâche. Il me dit, ah oui, c'était le premier amour de ma vie, un grand amour. Et je n'ai pas compris, elle a disparu. Ah, je suis là, j'ai dit, bah voilà, je suis votre fille. Et là, la traductrice traduit et fond en larmes. Et je regarde, je dis, oh là, enfin. Et moi, il n'y a rien qui sortait, c'était bloqué. C'est tellement choquant, les choses tellement fortes sont bloquées chez moi.
Nous n'avons pas du tout parlé de Jackie Fousteau. Elle s'approche de moi et me dit directement, « Je suis votre fille, ma mère s'appelle Angela. Vous souvenez-vous ? Je suis engourdi, choqué. Angela, mais bien sûr que je me souviens de tout cela. Je la serre fort dans mes bras, les larmes aux yeux, je ne sais que dire. »
Et lui, il me raconte que... Il me dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais moi, je savais pas que t'existais. Pourquoi elle a rien dit? Pourquoi elle a rien dit? Il répète. Et moi, je suis là, je sais pas, pas trop. Et elle dit, mais elle a disparu. Je l'ai recherchée. Je suis partie au service militaire. Je l'ai pas trouvée. Voilà. Et donc, il me raccompagne après. Jusqu'à la porte. Il me serre très fort dans ses bras. J'ai complètement étouffé contre son grand torse. Et moi, je suis contente. En fait, au moment où il me serre, c'est comme si voilà, je suis la petite fille qui a retrouvé son papa, quoi. Et c'est un moment, waouh, voilà, je retiens quand même mes larmes, là. Et quand je vois mon père, je trouve qu'on se ressemble. On a le même visage, le bas du visage très carré. À la fin de l'entretien, la traductrice, elle est toujours très émue, elle a beaucoup pleuré. Et elle me dit, je suis heureuse d'avoir participé à un événement pareil et c'est la première fois que je traduis quelque chose comme ça. Elle est toute retournée, quoi. Et on sort, et là, il y a mon mec qui est dehors et qui court avec son parapluie, l'appareil photo dans du cou, et il nous photographie. Voilà, j'ai gardé cette photo et c'est vrai que je suis toute contente avec un grand sourire. Il fait froid, il fait moche, mais dans mon cœur, c'est le soleil.
Après avoir entendu cette nouvelle, j'appelle ma femme, Julia. Je lui demande de rentrer à la maison pour lui dire quelque chose. Elle s'inquiète par ma voix tremblante et elle vient tout de suite. « Dis-moi, qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce qu'il est arrivé quelque chose aux enfants ?» me demande-t-elle. Je ne sais pas par où commencer. Alors je lui parle directement. « Tu te rappelles, Angela, dont je t'ai parlé, qui était ma copine avant la caserne ? Je viens d'apprendre aujourd'hui que j'ai une fille d'elle. Elle est venue me voir au Parlement aujourd'hui. Elle s'appelle Valentine. Elle habite en France. Elle a 30 ans. » Au début, Julia me regarde bouleversée. Elle essaie de comprendre tout ça et soudain, elle rit. Moi qui pensais que quelque chose de terrible s'était passé. Quelle bonne nouvelle. Raconte-moi tout. Quand va-t-elle venir, dit-elle. À ce moment-là, nos filles n'habitent déjà plus chez nous. Il faut leur annoncer la nouvelle, leur dire qu'elles ont une sœur. J'ai 2 merveilleuses filles, Théodora et Laura, qui ont respectivement 21 et 19 ans. Je les invite au dîner en leur disant qu'on aura des visiteurs de France. Tout le monde est rassemblé à la maison, 1 heure avant le dîner. Et mon épouse et moi, nous leur racontons l'histoire. Elles sont surprises, bien sûr, mais aussi excitées de rencontrer Valentine.
Il revient nous chercher, en fait, il nous envoie un chauffeur, l'après-midi, en fin de journée, ben, c'est 18h, à l'hôtel. Donc on descend, on monte dans une voiture, grosse voiture aux vitres fumées, et ça roule, et moi je rigole, mais je suis toute contente, hein, tout guillerette. Et là, quand même, je me dis, bah, si ça se trouve, il nous amène dans un traquenard et on va se faire égorger parce que c'est un ancien ministre, sa réputation. Et donc, on en rit, mais quand même, mon mec, il dit, ah bon, tu crois? On dit, on n'en sait rien, donc on n'est pas trop la Bulgarie, si ça se trouve, hein, c'est des mafieux et tout. Mais non, pas du tout. Hein. Ça s'arrête devant une maison et je sonne à la porte. Et là, la porte s'ouvre. Et je vois une fille plus jeune que moi, un peu plus jeune que moi, mais qui me ressemble tellement, tellement physiquement, et que je fonds en larmes, en fait. Là. Je rentre et je pleure et je tombe dans ses bras. Alors que je sais pas a priori qui c'est, mais je comprends que ça va être ma sœur, quoi. Une de mes sœurs. Donc je rentre et il y a Julia, la femme de Valentin, une blonde, petite, très, très souriante, très agréable. Et il y a donc celle qui me ressemble, qui s'appelle Théodora, et une autre sœur qui s'appelle Laura. Voilà. Et là, ils sont là, tout le monde m'accueille, la table est mise, je suis avec mon chéri et on est accueillis, les bras ouverts, quoi. Et tout le monde est au courant de la situation. Et ma sœur me dit, ma sœur qui me ressemble, Théodora, donc qu'on surnomme Teddy, elle me dit « Je comprends pourquoi j'ai appris le français toute seule. Je t'attendais. Ben, » c'est fou quand même, non ?
Valentine arrive pour le dîner. La surprise des filles est totale, car elles accueillent ma fille dont je n'ai jamais parlé comme un membre de la famille. Mes filles bulgares l'acceptent et l'aiment tout de suite. Ma femme l'accepte comme sa propre fille. Après le dîner, je montre à Valentine des photos de moi et d'Angela plus jeune. La soirée est émouvante, même amusante.
Et là, on est à table et... Valentin se lève, va chercher une boîte métallique. Il l'ouvre et là, il en sort des photos de ma mère. Parce que lui a gardé des photos de ma mère. Et on voit, ils dansent un slow. Ils sont enlacés. Ou alors, il y a une autre photo sur laquelle, je me souviens, il sort de la mer et il porte ma mère dans les bras comme une sirène. Et il sort comme ça. Et là, effectivement, je trouve que vaguement, il ressemble à Julien Clerc, mais bon, rien de très probant. Donc, ils me font visiter la maison et je vois qu'il y a des raquettes de tennis. Donc, il me dit qu'il joue au tennis avec sa femme. Moi, je lui dis, j'ai fait 10 ans de tennis. Après, je vois des photos de fond marin et tout ça. Et moi, j'adore la plongée. Et il me dit qu'il fait de la plongée aussi. Je me dis, c'est fou, ça. Alors que ma mère et mon père, Didier, pas du tout. Et aussi, j'apprends, alors là, c'était le pompon, que ma sœur Teddy était journaliste radio, et que mon père était journaliste télé environnement avant la chute du communisme. Et moi, je suis journaliste de presse écrite. Donc, on avait les trois sortes de médias, une filiation quand même incroyable. C'est un moment tellement, en fait, irréel, en fait. On a l'impression, c'est un peu... On est hors du temps, c'est un peu ubuesque même. C'est là, tu te dis, mais je rêve, il y a deux jours, la veille même, j'étais en France, et là, je suis en train de manger avec mon père génétique. Il me dit qu'en fait, leur amour a duré 2 ans. C'est ce qu'il dit, mais bon, je sais pas exactement ça, mais c'était pas une amourette d'été, comme elle disait. Et ça, ça m'a rassurée. Il me parle de la rencontre avec ma mère. Et là, j'ai une autre version.
Je rencontre Angela par hasard lors d'une excursion à Vitosha, près de Sofia. Je suis encore étudiant, j'ai à peine 18 ans. Angela a 5 ans de plus que moi et travaille dans une entreprise à Sofia. Nous tombons amoureux et on est un couple très heureux. Notre relation dure plus d'un an. Après avoir obtenu mon diplôme en 1971, comme tous les jeunes du régime communiste, je dois accomplir le service militaire obligatoire. La veille de mon départ, Angela a le courage de m'annoncer qu'elle est enceinte. On discute debout quelques minutes. On se demande ce qu'on va faire maintenant. Je lui rappelle que je serai absent pendant les 2 prochaines années. Elle me dit « Je ne sais pas ce que je vais faire, je dois réfléchir. » C'est notre dernière conversation. Le lendemain matin, je pars très tôt pour la caserne. La caserne est très éloignée de Sofia, et sous le régime communiste, la caserne, c'est plus strict qu'une prison. Toutes les communications sont strictement interdites, pas de téléphone. Les civils ne sont pas autorisés à entrer, aucun contact avec le monde extérieur. On est déconnecté du monde. J'arrive cependant à entrer en contact avec nos amis communs et je leur demande de m'expliquer ce qui se passe. Je leur demande de retrouver ma petite amie. Au bout d'un moment, ils me disent qu'on ne la trouve nulle part. Je reçois des informations très choquantes. Angela est partie. Personne ne l'a jamais revue. La seule chose qu'on me dit, c'est « Elle est vraiment partie. Désolé, on ne la trouve pas. » Après 2 ans, je quitte l'armée. Ma première pensée est « Retrouver Angela. » Elle n'a laissé aucune trace. Les années passent et elle ne me cherche pas une seule fois. Elle a vraiment disparu de ma vie et je ne l'ai jamais revue. Je n'en ai plus jamais entendu parler.
Je rentre en France et je dis à ma mère que j'étais pente à l'assaut, mais que je suis partie sur les traces de mon père, que je l'ai retrouvé, que ça s'est bien passé. Là, elle s'effondre encore en pleurs et ça la soulage. Et voilà, je me dis que j'ai fait quand même le boulot qu'elle aurait dû faire. Mais voilà, c'est qu'à 31 ans que j'ai eu la force et que j'étais prête à ce moment-là, en fait. J'ai appris une grande leçon de vie, une grande leçon de tolérance de la part de ma famille. Ça m'a ouvert l'esprit, ça m'apaise aussi. Je suis moins dans la colère, moins dans la révolte, mais je me dis que tout ça, je l'ai fait aussi grâce à moi, parce que c'est pas ma mère qui m'a aidée... Et je suis contente d'avoir réussi ça. Avant cette rencontre, je pense que dans la vie, j'ai été bancale. Et cette rencontre m'a ancrée au sol et m'a donné de la force. Et puis, m'a fait retrouver comme une partie de moi, en fait. Une moitié de moi. Recollée comme ça, d'un coup. Et on ne sait pas que... qu'on ne sait pas pourquoi on dysfonctionne. Et là, on dysfonctionne beaucoup moins.
En fait, je l'ai appris quand elle était là-bas, je crois. Moi, comment je réagis, en fait, je suis content pour elle, si ça peut lui permettre d'être plus heureuse. Pourquoi pas? Alors, avec Angèle, on est allé visiter le Parlement. C'est Valentin qui nous fait visiter, je m'en souviens très bien. J'ai donc rencontré Valentin pour la première fois. J'étais un peu stressé. À ce moment-là, je suis très content, bah oui. Je suis content de voir le pays d'Angèle et puis ça nous fait voyager, c'est bien aussi.
Maintenant, j'ai une belle relation avec ma fille, Valentina. Ma femme et moi, et nos enfants et petits-enfants, lui rendons visite pour cet anniversaire. Sa famille vient aussi de temps en temps en Bulgarie. J'ai le sentiment que nous formons une grande famille bulgaro-française. J'ai revu Angela plusieurs fois et nous n'avons jamais parlé du passé. Peut-être qu'elle avait raison. Au fil du temps, j'ai réalisé que nous devons prendre soin de l'avenir, car la vie des enfants est la plus importante. Mais le passé, lui, ne reviendra pas.
Aujourd'hui, j'ai des relations superbes avec cette famille. Je suis allée en vacances plusieurs fois là-bas. Ils viennent à mes anniversaires. Pour mes 40 ans, c'est la première fois que j'ai eu mes deux pères. À l'adolescence, j'étais très violente, très en colère, et j'avais l'impression que j'aimais pas mon père, qu'il était trop con. Et quand j'ai finalement découvert qu'il m'avait adoptée, que c'était un acte courageux, qu'il m'avait présentée à la famille du Nord, qu'il a jamais fait de différence avec mon frère et ma sœur, j'ai jamais senti que j'étais pas sa fille. Et à partir du moment où il avait pris cette décision d'adoption, elle a été pleine et entière. Et il faisait comme il pouvait, parce que mon père, c'est un taiseux, et il ne sait pas communiquer, il ne sait pas exprimer ses sentiments. Donc, c'était compliqué. J'ai commencé à l'aimer tardivement, en découvrant finalement ses qualités, et que lui, il ne s'est jamais plaint, il ne se plaint pas. Et ça, c'est comme ma mère, tous les deux. Jamais de plainte, on avance, on essaye de résoudre les problèmes, à leur façon, mais... Voilà, c'était quand même bien ce qu'il a fait. Aujourd'hui, ma mère est décédée. Ça va faire 1 an et demi. Et quand elle est partie, mon père, il regardait les fleurs du jardin en buvant son rosé. Et il pleurait. Et je me suis dit, il va périr. Comme on a perdu maman en EHPAD, j'ai dit, on va pas en perdre un deuxième comme ça. Et je l'ai pris à domicile. Voilà, il vit avec moi et mes filles. Et on est super heureux. Et lui, il a ressuscité. Il s'est mis à faire de la clarinette, de la chorale. Il est content et ça fait une joie immense pour tout le monde. Je lui rends l'appareil parce que il m'a quand même adoptée et je suis heureuse de vivre en France. Ma mère n'a pas eu une vie facile, même si elle dit que sa vie était facile, elle n'a pas du tout été finalement. Et elle a dû garder un secret trop lourd toute sa vie, c'est ce que je pense. Et elle est morte d'une maladie neurodégénérative qui lui a fait perdre la parole. Cette parole qu'elle n'avait pas pu libérer toute sa vie, finalement, elle a terminé sans pouvoir communiquer du tout, du tout, du tout, dans une paralysie totale. Ça a été très important pour moi de faire ce cheminement, parce que même si ça avait été un échec, j'ai eu le courage d'aller jusqu'au bout, et ce courage-là rend plus fort. Quand on fait des choses qu'on n'ose pas faire, et quand on va au bout, ça donne de la force et du courage, ça nous ancre dans le sol, et de savoir d'où l'on vient, ça nous permet d'aller de l'avant et de savoir où on va. Et connaître son histoire, en fait. C'est comme l'histoire avec un grand H d'un pays. Et là, son histoire personnelle, c'est exactement pareil. Je sais maintenant d'où je viens. Je sais pourquoi j'ai ses défauts et ses qualités. C'est parce que je ressemble à tel et tel parent. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'être vraiment ancrée dans le sol. J'ai retrouvé mes racines.
Cet épisode de Passage a été scénarisé, tourné et monté par Alice Guillonnet. La réalisation et le mix ont été faits par Thomas Rosès. À très vite.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Brought to you by Lexus. Some things do more than their stated functions, because exceptional things inspire you to do exceptional things. To this select list, we add the all-new Lexus GX. With its exceptional capability, you'll see possibilities you never knew existed, sending you far outside your comfort zone. But as much as the GX challenges you, it also spoils you. Its intuitive technology and luxurious features mean that wherever you go, you'll never go without. Live up to it. The all-new Lexus GX.